Le journal de George Fox 1657-1661 de retour en Angleterre fin du volume 1 page de le major Wigan, homme fort envieux, était présent. Pourtant, il se contint devant le député au Parlement et quelques autres qui étaient là en compagnie. Il se chargea d'affirmer « Le Christ a ôté la culpabilité du péché astérisque mais il a laissé subsister en nous la puissance du péché. Je lui dis que c'était là une doctrine étrange, car le Christ est venu pour détruire le diable et ses œuvres, et la puissance du péché, et ainsi purifier les hommes du péché. » Ainsi, la bouche du major Wigan fut fermée ce jour-là. Mais le lendemain, il désira me parler de nouveau, j'emmenai donc un ou deux amis avec moi et j'allai le voir. Alors il déversa une grande passion et une rage, au-delà des bornes d'un homme chrétien ou même moral, à quoi l'on me dit de le reprendre, et, après avoir amené sur lui la puissance du Seigneur, et lui avoir fait voir dans quel état il se trouvait, je le laissai. Astérisque commentaire des éditeurs du site. La chrétienté voudrait vous faire croire que le Christ vous dispense de tout péché, afin que vous puissiez pécher sans culpabilité. Si le Christ nous sauve de la culpabilité, alors il rend le péché plus facile. Si le Christ rend le péché plus facile, alors il promeut le péché. S'il promeut le péché, alors le Christ est mauvais. S'il est mauvais, il n'est pas le Christ. Par conséquent, il ne sauve pas les gens de la culpabilité de leur péché. Seul le diable se faisant passer pour le Christ sauve les gens de la culpabilité de leurs péchés. Celui qui pense que le sang du Christ lui permet de continuer dans ses péchés, sans que la fureur de Dieu ne s'abatte sur lui, a foulé aux pieds le Fils de Dieu, et a tenu pour une chose profane le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié, et a outragé méprisé l'Esprit de grâce. Édit 29. La fausse Église fait du sang du Christ une excuse pour le mal, faisant de son sang une chose profane, et ainsi piétine Jésus et montre du mépris pour la grâce. La doctrine de la chrétienté est la doctrine du diable qui dit à Adam et Ève, « Vous pouvez être comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et ils mangèrent en s'attendant à devenir sages, capables de décider ce qui est bien et ce qui est mal, capables de prendre leurs propres décisions, capables de vivre leur vie comme ils le voulaient, y compris en péchant. Ainsi, toute doctrine qui vous dit que Dieu vous acceptera au ciel alors que vous êtes encore esclaves du péché, je vous le dis en vérité, quiconque pèche est esclave du péché. Jean 8, 34 est la doctrine du vieux diable déguisé. Pour aller au ciel, nous devons être rétablis afin d'être continuellement guidés et conduits par l'Esprit de Dieu, marcher selon votre pensée charnelle, qui est inimitié contre Dieu, et selon l'imagination de votre cœur est pire que d'adorer des idoles de pierre ou de bois. JR 16, 11, 12. Jésus a expulsé Satan du ciel à cause de son péché. Jésus a chassé Adam et Ève du paradis à cause de leur péché. Jésus n'a pas changé et ne change pas, il n'a alors permis ni le péché ni les pécheurs au ciel, et il ne permettra ni le péché ni les pécheurs au ciel maintenant, ni à l'avenir. Il faut que le péché disparaisse avant que vous puissiez entrer au ciel, rien d'impur ou de souillant n'entrera au ciel. Après quelque temps, je quittai Londres et tins une réunion chez le sergent Buckhead à Twickenham, à laquelle beaucoup de gens vinrent, certains de conditions notables dans le monde. Ce fut une réunion glorieuse, où les Écritures furent largement et clairement ouvertes, et où le Christ fut exalté par-dessus tout, à la grande satisfaction des participants. Mais il y avait une grande persécution en beaucoup d'endroits, tant par l'emprisonnement que par la dispersion des réunions. À une réunion située à environ 7 milles de Londres, des gens grossiers sortaient d'ordinaire de plusieurs paroisses des environs pour maltraiter les amis, et souvent les battre et les meurtrir de manière excessive. Un jour, ils maltraitèrent environ 80 amis, venus de Londres à cette réunion, leur arrachant vestes et manteaux du dos, les jetant dans des fossés et des étangs, et, après les avoir barbouillés de boue, ils dirent qu'ils ressemblaient à des sorcières. Le premier jour suivant, je fus poussé par le Seigneur à aller à cette réunion, bien que je fusse alors très faible. Quand j'y arrivai, je dis aux amis d'apporter une table et de la placer dans la salle de réunion afin que je puisse monter dessus. Comme on s'y attendait, les gens grossiers vinrent, et, la Bible à la main, je leur montrai leurs fruits et ceux de leurs enseignants, cela fit honte aux gens et ils se tinrent tranquilles. Je leur ouvris les Écritures et montrai comment nos principes s'accordaient avec les Écritures, et je les détournai des ténèbres vers la lumière du Christ et de son Esprit, par laquelle ils pourraient comprendre les Écritures, se voir eux-mêmes et leurs péchés, et connaître le Christ Jésus comme leur Sauveur. Ainsi la réunion se termina paisiblement, et la puissance du Seigneur vint sur tous pour sa gloire. Mais ce fut un temps de grande souffrance, car, outre les emprisonnements au cours desquels beaucoup moururent, nos réunions furent fortement troublées. Ils avaient lancé des œufs pourris et du naphte enflammé dans nos réunions, et ils battaient des tambours et des chaudrons pour faire un tel bruit que la vérité ne puisse pas être entendue, et parmi eux les prêtres étaient aussi grossiers que n'importe qui, comme on peut le voir dans le livre des prêtres bagarreurs, qui contient une liste de certains prêtres ayant effectivement battu et maltraité les amis. Beaucoup d'amis furent emmenés comme prisonniers à Londres pour être jugés devant le comité, où Renouivan, étant président, n'autorisait pas les amis à entrer à moins qu'ils n'enlèvent leur chapeau, mais enfin la puissance du Seigneur vint sur lui, et par la médiation d'autres personnes, les amis furent admis. Beaucoup d'entre nous ayant été emprisonnés pour des outrages, comme ils les appelaient, pour n'avoir pas ôté nos chapeaux, il n'était pas vraisemblable que les amis, qui avaient souffert si longtemps pour cela de la part d'autres, ôteraient leur chapeau devant lui. Mais la puissance du Seigneur vint sur eux tous, et fut si efficace que plusieurs furent relâchés par eux. Comme les souffrances devenaient très vives, je fus poussé par le Seigneur à écrire quelques lignes et à les envoyer parmi les amis, pour les encourager à continuer fidèlement et courageusement à travers les épreuves du temps, dont voici une copie. Mes chers amis partout, en prison ou hors de prison, ne craignez pas à cause des récits de souffrance, que les mauvais espions du bon pays ne vous effraient pas, s'ils vous disent que les murs sont hauts et que des anakims sont dans le pays, car au son des cors de bélier les murs de Jéricho tombèrent, et ceux qui rapportèrent le mauvais rapport périrent dans le désert. Demeurez dans la foi, la patience et l'espérance, ayant la parole de vie pour vous garder, qui est au-delà de la loi, et ayant le serment de Dieu, son alliance, le Christ Jésus, qui sépare les eaux et les fait s'amonceler en monceaux, tenez-vous en cela et vous verrez que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ce triomphe, quand les souffrances viennent, quelles qu'elles soient, votre foi, votre bouclier, votre casque, votre armure, vous les avez revêtus, vous êtes prêts à franchir d'un bond une montagne, un mur ou une colline, et à marcher à travers les eaux profondes, quand bien même elles seraient des monceaux sur des monceaux. Les mauvais espions du bon pays peuvent prêcher la dureté, mais Caleb, qui signifie un cœur, et Josué, un sauveur, triomphe de tout. George Fox, après un certain temps, je me rendis à Reading, où je demeurai dans de grandes souffrances et épreuves, et dans une grande lutte d'esprit pendant environ 10 semaines. Car je vis qu'il y avait là une grande confusion et distraction parmi le peuple, et que les pouvoirs se déchiraient entre eux. Et je vis combien beaucoup détruisaient la simplicité et trahissaient la vérité. Une grande hypocrisie, tromperie et crêle dominaient parmi le peuple, de sorte qu'ils étaient prêts à rengainer leurs épées dans les entrailles les uns des autres. Il y avait eu autrefois chez beaucoup d'entre eux de la tendresse, lorsqu'ils les puritains étaient abaissés, mais quand ils se furent enflés, eurent tué et pris possession, ils devinrent aussi mauvais que les autres, de sorte que nous eûmes beaucoup à faire avec eux au sujet de nos chapeaux et du fait de leur dire « toi » et « te » d'Aoedi. Ils changèrent leur profession de patience et de modération en rage et en folie, beaucoup d'entre eux étaient comme des hommes égarés pour cette affaire d'honneur du chapeau. Car ils s'étaient endurcis en persécutant les innocents, et à ce moment-là, crucifiaient la semence, le Christ, à la fois en eux-mêmes et chez les autres, jusqu'à ce qu'enfin ils se mirent à se mordre et se dévorer les uns les autres, jusqu'à être consumés les uns par les autres, eux qui s'étaient retournés contre et avaient jugé ce que Dieu avait opéré en eux et leur avait montré. Ainsi, peu après, Dieu les renversa, les bouleversa, et amena le roi sur eux qui soupçonnaient souvent que les Quakers se réunissaient pour faire revenir le roi Charles, alors que les amis ne se mêlaient pas des pouvoirs extérieurs ni du gouvernement. Mais enfin le Seigneur le fit revenir, et beaucoup d'entre eux, voyant qu'il allait revenir, votèrent pour son retour. Ainsi, de cœur et de voix, louez le nom du Seigneur, à qui cela appartient, lui qui, par-dessus tout, a la suprématie et qui ébranlera les nations, car il est au-dessus d'elles. J'eus une vision, et un sentiment du retour du roi longtemps avant, et d'autres aussi. J'écrivis plusieurs fois à Olive, et je lui fis savoir que, pendant qu'il persécutait le peuple de Dieu, ce qu'il tenait pour ses ennemis se préparait à fondre sur lui. Quand certains esprits empressés, venus parmi nous, auraient voulu acheter Somerset ou afin que nous puissions y tenir des réunions, je le leur interdis, car je prévoyais alors le retour du roi. De plus, une femme vint à moi dans le Strand, qui avait une prophétie concernant le retour du roi Charles, 3 ans avant qu'il ne revienne, et elle me dit qu'elle devait aller vers lui pour la déclarer. Je lui conseillai d'attendre le Seigneur et de la garder pour elle, car si l'on apprenait qu'elle allait avec un tel message, on le regarderait comme une trahison, mais elle dit qu'elle devait aller lui dire qu'il serait ramené en Angleterre. Je vis que sa prophétie était vraie et qu'un grand coup devait tomber sur ceux qui étaient au pouvoir, car ceux qui s'étaient alors emparés du pouvoir étaient excessivement orgueilleux et de grands persécuteurs, se disant des saints, prenant terres et biens aux amis parce qu'ils ne pouvaient pas jurer dans leurs tribunaux. Parfois, lorsque nous exposions ces souffrances à Oliver Cromwell, ils ne le croyaient pas. C'est pourquoi Thomas Aldam et Anthony Pearson furent poussés à parcourir toutes les prisons d'Angleterre et à obtenir des copies des mandats d'incarcération des amis, signés des geôliers, afin de faire peser sur Oliver Cromwell le poids de leurs souffrances. Et lorsqu'il refusa de donner ordre de les libérer, Thomas Aldam fut poussé à enlever sa casquette de sa tête et à la déchirer en morceaux devant lui, en lui disant « Ainsi ton gouvernement sera arraché de toi et de ta maison. » Un autre ami aussi, une femme, fut poussée à aller au Parlement, qui était envieux contre les amis avec une cruche à la main, qu'elle brisa en morceaux devant eux, en leur disant « Ainsi serez-vous brisés en morceaux », ce qui arriva peu après. Et dans ma grande souffrance et ma lutte d'esprit pour la nation, étant lourdement accablé par leur hypocrisie, leur perfidie et leur fausseté, je vis que Dieu ferait retomber sur eux ce dont ils avaient accablé les autres, et que tout devait être ramené à ce qui les avait convaincus, avant qu'ils puissent se défaire de ce mauvais esprit au-dedans et au-dehors, car c'est l'esprit pur et invisible qui abat, et qui seul peut abattre toute tromperie dans les gens. Pendant que j'étais sous ce douloureux travail à Reading, à cause du chagrin et de la tristesse d'esprit, et du grand exercice qui pesait sur mon esprit, mon visage étant changé, et mon corps devenu pauvre et maigre, une troupe d'esprits impurs vint à moi et me dit « Les plaies de Dieu sont sur toi ». Je leur dis que c'était le même esprit qui parlait en eux que celui qui disait cela du Christ, lorsqu'il était frappé et meurtri, ils détournaient de lui leur visage. Mais lorsque j'eus travaillé avec le témoin de Dieu, qu'ils avaient éteint, et que j'eus dépassé cet étouffement, par-dessus toute l'hypocrisie où s'étaient précipités les professeurs extérieurs, et que je vis comment cela serait abaissé et renversé, et que la vie s'élèverait au-dessus, je parvins au soulagement, et la lumière, la puissance et l'esprit brillèrent au-dessus de tout. Et puis, m'étant rétabli, mon corps et mon visage enflèrent quand je sortis à l'air, alors les mauvais esprits dirent « Il a engraissé » et ils en furent envieux aussi. Ainsi je vis qu'aucune condition ni aucun état ne plairait à leur esprit, mais le Seigneur me conserva par sa puissance et son esprit à travers tout et au-dessus de tout, et dans la puissance du Seigneur je revins à Londres. Il y avait alors une grande agitation autour de l'effigie d'Olivier Cromwell exposée en grande pompe, des hommes se tenant là et sonnant des trompettes au-dessus de son image, après sa mort. Mon esprit en fut profondément affligé, et je trouvai que le Seigneur en était grandement offensé. Alors j'écrivis les lignes suivantes et les envoyai parmi eux pour reprendre leur méchanceté et les avertir de se repentir. « Ô amis, que faites-vous ? Que signifie sonner des trompettes devant une image ? Les gens sensés ne penseront-ils pas tous que vous êtes comme des fous ? Oh, combien je suis affligé de vos abominations ! Oh, combien je suis là ! Mon âme est lasse de vous, dit le Seigneur. Pensez-vous que je ne me vengerai pas de vous, pour vos abominations ? Oh, comme vous avez renversé et établi ! Oh, comme vos cœurs sont restés entiers et non déchirés ! Comme vous vous êtes tourné vers des niaiseries que jadis vous dominiez ! Comme vous avez perdu ma crainte, dit le Seigneur, oh, craignez donc et repentez-vous, de peur que le piège et la fosse ne vous prennent tous, le grand jour du Seigneur est venu sur vos abominations, la main rapide du Seigneur s'est tournée contre elles toutes. Les gens sobres de ces nations demeurent stupéfaits de vos agissements, et en ont honte comme si vous vouliez ramener la papauté. George Fox à cette époque, il y eut de grands remous dans la nation, les esprits du peuple étant instables. Il y avait beaucoup de complots et de manœuvres de la part des diverses factions, pour faire avancer leurs intérêts particuliers. Et comme une grande préoccupation était sur moi, de peur que des jeunes gens, ou des personnes inexpérimentées, qui pouvaient parfois venir parmi nous, ne soient attirés dans ce piège, je fus poussé à donner l'épître suivante comme avertissement à ceux-là. Tous les amis, partout, gardez-vous des complots, de l'agitation et du bras de la chair, car tout cela se trouve parmi les fils d'Adam dans la chute, où ils détruisent les vies des hommes comme des chiens, des bêtes et des porcs, s'encornant, se déchirant et se mordant les uns les autres, se détruisant les uns les autres, et luttant contre la chair et le sang. D'où viennent les guerres et les meurtres, sinon des convoitises? Or tout cela est en Adam dans la chute, hors d'Adam qui n'est jamais tombé, en qui il y a paix et vie. Vous êtes appelés à la paix, poursuivez-la donc. Cette paix est dans le Christ, non dans Adam dans la chute. Tous ceux qui prétendent combattre pour le Christ sont trompés, car son royaume n'est pas de ce monde, donc ses serviteurs ne combattent pas. Les combattants ne sont pas du royaume du Christ, mais en dehors du royaume du Christ, car son royaume consiste en paix et justice, tandis que les combattants sont dans la convoitise, et tous ceux qui veulent détruire la vie des hommes ne sont pas de l'esprit du Christ, qui est venu sauver la vie des hommes. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde, il est pacifique, et tous ceux qui sont dans la crêle ne sont pas de son royaume. Tous ceux qui prétendent combattre pour l'Évangile sont trompés, car l'Évangile est la puissance de Dieu, qui existait avant le diable, ou avant la chute de l'homme, et l'Évangile de paix existait avant les combats. C'est pourquoi ceux qui prétendent combattre pour le Christ, et parlent ainsi de combattre, ignorent l'Évangile. Tous ceux qui parlent de combattre pour le ciel sont dans les ténèbres, le ciel n'a besoin d'aucune aide de ce genre. Tous ceux qui se professent ministres du Christ ou chrétiens, et s'emploient à abattre la prostituée avec des armes extérieures et charnelles. La chair et la prostituée se sont élevées en eux-mêmes, et ils sont dans un zèle aveugle, car la prostituée s'est élevée par la rapacité intérieure loin de l'Esprit de Dieu, et l'abaissement de la prostituée doit se faire par le coup intérieur de l'épée de l'Esprit au-dedans. Tous ceux qui prétendent posséder le Christ Jésus et le confesser, et pourtant se précipitent dans l'usage d'armes charnelles, luttant contre la chair et le sang, jettent les armes spirituelles. Ceux qui veulent lutter contre la chair et le sang rejettent la doctrine du Christ, la chair a pris le dessus sur eux, et ils sont là de leur souffrance. Ceux qui veulent se venger sont hors de la doctrine du Christ. Ceux qui, frappés sur une joue, ne voudraient pas tendre l'autre, sont hors de la doctrine du Christ. Ceux qui ne s'aiment pas les uns les autres, ni n'aiment leurs ennemis, sont hors de la doctrine du Christ. Ainsi, vous qui êtes héritiers des bénédictions de Dieu, qui existaient avant la malédiction et la chute, venez recevoir votre part. Et vous qui êtes héritiers de l'évangile de paix, qui existait avant le diable, vivez dans l'évangile de paix, recherchant la paix et le bien de tous les hommes, et vivez dans le Christ, qui est venu sauver la vie des hommes, hors d'Adam dans la chute, où ils détruisent la vie des hommes, et ne vivent pas dans le Christ. L'épée des Juifs au dehors, par laquelle ils abattaient les païens, était une figure de l'Esprit de Dieu au-dedans, qui abat la nature païenne au-dedans. Vivez donc dans le royaume pacifique du Christ Jésus. Vivez dans la paix de Dieu et non dans les convoitises d'où naissent les guerres. Vivez dans le Christ, le prince de la paix, le chemin de Dieu, le second Adam qui n'est jamais tombé. Ne vivez pas en Adam dans la chute, dans la destruction, où ils se détruisent les uns les autres. Sortez d'Adam dans la chute pour entrer dans le second Adam qui n'est jamais tombé. Vivez dans l'amour et la paix avec tous les hommes, gardez-vous de toutes les agitations du monde. Ne vous mêlez pas des puissances de la terre, mais occupez-vous du royaume, du chemin de la paix. Vous qui êtes héritier de la grâce, héritier du royaume, héritier de l'évangile, héritier du salut, saint du trésor et enfant de Dieu dont la conduite est dans le ciel, au-dessus des troubles de la terre, que votre conduite prêche à tous les hommes et vos vies innocentes afin que ceux qui disent du mal de vous, voyant votre conduite pieuse, glorifient votre Père qui est aux cieux. Amis partout, je vous en fais cette injonction, qui est la parole du Seigneur Dieu à vous tous, vivez en paix, en Christ, le chemin de la paix, recherchez donc la paix de tous les hommes et le tort de personne. En Adam dans la chute, il n'y a pas de paix, mais en Adam hors de la chute, il y a la paix. Ainsi vous étant en Adam, qui n'est jamais tombé, c'est l'amour qui triomphe, non la haine par la haine, ni la crêle par la crêle. Vivez donc tous dans la vie paisible, faisant du bien à tous les hommes, et recherchant le bien et le bien-être de tous les hommes. George Fox. Peu après cela, George Booth prit les armes dans le Cheshire, et Lambert marcha contre lui. À ce moment, quelques esprits insensés et téméraires, qui venaient parfois parmi nous, étaient prêts à prendre les armes, mais je fus poussé par le Seigneur à les avertir et à le leur interdire, et ils se tinrent tranquilles. Au temps du comité de sûreté, comme on l'appelait, ils nous invitèrent à prendre les armes, et de grands postes et commandements furent offerts à certains d'entre nous, mais nous les refusâmes tous, et nous nous déclarâmes contre le fait de prendre les armes, tant par la parole que par écrit, attestant que nos armes et notre armure n'étaient pas charnelles, mais spirituelles. Et afin que personne de ceux qui venaient parmi nous ne soit attiré dans ce piège, il me vint du Seigneur d'écrire quelques lignes à cette occasion et de les diffuser, comme avertissement à tous parmi nous. En voici une copie. Tous les amis partout, veillez à vous tenir à l'écart des puissances de la terre, qui se précipitent dans les guerres et les combats, qui ne font pas la paix, mais s'en éloignent, cela n'auront pas le royaume. Et amis, prenez garde de vous joindre à celui-ci ou à celui-là, ou de vous mêler de quiconque, ou de vous occuper des affaires d'autrui, mais ayez en vue le Seigneur, sa puissance et son service. Que les amis se gardent des affaires d'autrui et demeurent dans ce qui répond aux témoins en eux tous, hors de la part des affaires de l'homme, où ils doivent s'attendre aux guerres et aux déshonneurs. Amis partout, demeurez en votre propre demeure, dans la puissance du Seigneur, afin de maintenir vos pensées élevées vers Dieu, sans retomber vers la force de l'Égypte, ni y aller chercher de la force, après en être sortis, comme les enfants d'Israël, après être sortis de l'Égypte extérieure. Mais demeurez dans la puissance du Seigneur Dieu, afin de vous tenir au-dessus de toutes les puissances de la terre, parmi lesquelles la juste main de Dieu est venue, car elles se sont tournées contre le juste, et ont désobéi au juste dans leur propre particularité, et ont continué l'une contre le juste, c'est pourquoi le juste les dresse les unes contre les autres. Or celui qui va aider parmi elles s'éloigne du juste en lui-même, dans un état insensé et instable, et ne connaît pas par l'œil qui voit tout qui le regarde, lui qui rend et récompense, et il ne vit pas dans la main ni dans la puissance qui broie et renverse, laquelle tourmente les transgresseurs, qui finissent par devenir aveugles et zélés sans savoir pourquoi. Gardez donc la paix, et l'amour et la puissance de Dieu, et l'unité et l'amour les uns envers les autres, de peur que quelqu'un ne sorte et ne tombe avec les incirconcis, c'est-à-dire ceux qui sont éloignés de l'esprit en eux-mêmes, et ceux qui s'en éloignent vont ensemble dans la fosse. Tenez-vous donc dans cela, c'est la parole du Seigneur Dieu à vous tous, dans la crainte et la révérence du Seigneur Dieu, sa puissance, sa vie, sa lumière, sa semence et sa sagesse par lesquelles vous pouvez ôter l'occasion des guerres, et ainsi connaître un royaume sans fin, et combattre pour celui-là avec des armes spirituelles, qui ôtent l'occasion des charnelles, et là dans le royaume rassemblez des hommes pour la guerre autant que vous le pouvez, et établissez-en autant que vous le pouvez avec ces armes spirituelles. George Fox, après être resté quelque temps à Londres, et avoir visité les réunions des amis là-bas et dans les environs, et la puissance du Seigneur ayant été établie sur tout, je voyageais de nouveau dans les comtés, passant par le Suffolk, l'Essex et le Norfolk, visitant les amis, jusqu'à ce que j'arrivais à Norwich, où nous eûmes une réunion vers le temps qu'on appelle Noël. Le maire de Norwich, ayant eu avis à l'avance de la réunion que je voulais y tenir, délivra un mandat pour m'arrêter. Ainsi, lorsque j'y arrivais et appris l'existence du mandat, j'envoyai quelques amis au maire pour raisonner avec lui à ce sujet. Sa réponse fut, « Puisque les soldats ne devaient pas se réunir, pourquoi penserions-nous nous réunir ?» Il voulait que nous nous réunissions hors de la ville, car, disait-il, les habitants étaient si grossiers qu'ils pouvaient à peine les maîtriser, et il craignait que notre réunion ne provoque de grands troubles dans la ville. Mais nos amis lui dirent que nous étions un peuple pacifique, et qu'il devait maintenir la paix, car nous devions nous réunir pour adorer Dieu, comme c'était notre coutume. Il devint donc assez modéré et n'envoya pas ses officiers à la réunion. Ce fut une grande réunion, et beaucoup de gens grossiers vinrent avec l'intention de faire du mal, mais la puissance du Seigneur vint sur eux, de sorte qu'ils furent enchaînés par elle, bien que plusieurs prêtres fussent là, ainsi que des professants et des rentés. Parmi les prêtres, un homme Townsend se leva et cria, « Erreur blasphème et réunion impie !» Je lui dis de ne pas se charger de ce qu'il ne pouvait prouver, et je lui demandai, « Quelle est notre erreur et quel est notre blasphème ?» car je lui dis qu'il devait prouver ses paroles avant que j'en aie fini avec lui, ou bien en avoir honte. Quant à une réunion impie, je dis que je croyais qu'il y avait là beaucoup de gens qui craignaient Dieu, et que, par conséquent, c'était à la fois non chrétien et incivil de sa part de charger des gens civils et pieux d'une réunion impie. Il dit que mon erreur et mon blasphème étaient que j'affirmais que les gens doivent attendre Dieu par sa puissance et son esprit, et sentir sa présence, lorsqu'ils ne prononcent pas de paroles. Je lui demandai alors si les apôtres et les saints hommes de Dieu n'entendirent pas Dieu leur parler dans leur silence, avant de prononcer les Écritures, et avant qu'elles ne soient écrites. Il répondit que oui, David et les prophètes entendirent Dieu avant d'écrire les Écritures, et sentirent sa présence dans le silence avant de les prononcer. Alors je dis, que tout le peuple prenne note qu'il a dit que c'était erreur et blasphème en moi de dire ces mots, et maintenant il a confessé que ce n'est rien de plus que ce dont les saints hommes de Dieu, autrefois, ont rendu témoignage. Ainsi je montrai au peuple que, de même que les saints hommes de Dieu, qui ont donné les Écritures, ayant été mus par le Saint-Esprit, entendirent et apprirent de Dieu avant de les prononcer, de même tous doivent écouter et entendre ce que dit l'Esprit, qui les conduira dans toute la vérité, afin qu'ils connaissent Dieu et le Christ, et qu'ils comprennent les Écritures. « Oh, dit le prêtre, ce n'est pas le George Fox à qui je voulais parler, c'est un homme subtil, dit-il. » Alors la puissance du Seigneur vint sur tous, les gens grossiers se modérèrent et en furent touchés, et certains professants crièrent au prêtre, « Prouvez le blasphème et les erreurs dont vous les avez accusés, vous avez beaucoup parlé contre eux derrière leur dos, mais rien de ce que vous puissiez prouver maintenant en face d'eux. » Mais le prêtre commença à s'éloigner, sur quoi je lui dis que nous avions beaucoup de choses à lui reprocher, qu'il fixe donc un temps et un lieu pour y répondre, ce qu'il fit, puis s'en alla. Ce fut un jour glorieux, car la vérité triompha de tout, et les gens furent tournés vers Dieu par sa puissance et son esprit, et vers le Seigneur Jésus-Christ, leur libre enseignant, qui fut exalté au-dessus de tout. Et tandis que nous nous retirions, en général les cœurs des gens étaient remplis d'amour envers nous, oui, même les plus grossiers d'entre eux désiraient une autre réunion, car les mauvaises intentions qu'ils avaient contre nous furent rejetées de leur cœur. La nuit, je sortis de la ville pour aller chez un ami, et de là chez le colonel Denny, où nous eûmes une grande réunion. Puis je repris la route, visitant les amis de haut en bas dans le Norfolk, le Huntingdonshire et le Cambridgeshire. Mais George Whitehead et Richard Robeson restèrent aux environs de Norwich pour rencontrer le prêtre, qui fut bientôt confondu et abaissé, tant la puissance du Seigneur vint sur lui. Après avoir voyagé dans de nombreux comtés au service du Seigneur, et que beaucoup furent convaincus, nonobstant qu'en certains endroits le peuple fut très grossier, je retournai à Londres, quand le général Monk y était venu, et que les portes et les poteaux de la ville avaient été abattus. Bien avant cela, j'avais eu une vision, dans laquelle je vis la ville gisant en monceaux et les portes abattues, et cela me fut alors représenté exactement comme je le vis plusieurs années plus tard, gisant en monceau lorsqu'elle fut brûlée. À plusieurs reprises, tant par la parole que par écrit, j'avais averti à l'avance les divers pouvoirs, tant du temps d'Olivier qu'après, du jour de rétribution qui venait sur eux, mais eux rejetant le conseil et méprisant ces visites d'amour envers eux, je fus maintenant poussé, avant qu'ils ne soient complètement renversés, à leur exposer leur apostasie, leur hypocrisie et leur conduite perfide ainsi. Amis, maintenant les prophéties sont accomplies et s'accomplissent sur vous, qui vous ont été dites par le peuple de Dieu dans vos tribunaux, dans vos églises, dans vos bourgs, villes, marchés, chemins, et à vos festins, lorsque vous étiez dans vos plaisirs et enflés, de sorte que vous ne vouliez écouter ni Dieu ni l'homme, lorsque vous étiez dans votre grandeur et au sommet de l'autorité. Bien que relevé d'un état bas, nul ne pouvait s'approcher de vous sans s'incliner, ni sans faire acception des personnes, car vous étiez dans les voix, les compliments et les modes du monde, où pour motif de conscience envers Dieu, les amis ne pouvaient pas entrer, en ayant été rachetés. C'est pourquoi vous les avez haïs, mais maintenant vous êtes abaissés, vous qui vous êtes élevés au-dessus de vos frères, et avez rejeté d'entre vous les justes et les inoffensifs, jusqu'à ce qu'enfin Dieu vous ait rejeté. Et lorsque vous avez chassé l'innocent d'entre vous, alors vous avez commencé à vous battre les uns contre les autres, jusqu'à être consumés les uns par les autres. Ainsi le jour est venu sur vous, dont vous aviez été avertis auparavant, bien que vous ne vouliez pas y croire. Et vos cœurs ne sont-ils pas si endurcis que vous avez encore peine à le croire, alors même que vous allez entrer en captivité? Ne vous a-t-on pas dit, lorsque vous répandiez le sang des innocents dans vos églises, dans vos marchés, sur vos routes et dans vos villes, oui, et même dans vos tribunaux aussi, parce qu'ils vous disaient le mot, ils ne pouvaient pas ôter leur chapeau devant vous, que si quelque chose ne s'élevait pas parmi vous-même pour venger le sang de l'innocent, quelque chose viendrait d'au-delà des mers, réservez-la, et que lorsque cela serait amené par le bras de Dieu, ni le bras de la chair ni la montagne la plus forte ne pourraient y résister. Et pourtant vous n'avez pas voulu considérer, ni prendre garde, ni écouter, mais vous criez, paix, paix, et vous vous faisiez des festins, et vous vous asseyez dans les bien-saisis de vos ennemis, étant perfides envers Dieu et envers l'homme, et qui vous fera confiance maintenant. N'avez-vous pas pris des alliances et des serments, et n'avez-vous pas rompu les alliances et les serments entre Dieu et l'homme, et fait des nations des violateurs d'alliances et de serments, de sorte qu'il n'y avait parmi vous que de l'hypocrisie, de la pourriture et de la fausseté sous un beau prétexte? Quand vous prétendiez rétablir l'ancienne cause, ce n'était que pour vous-même, ce pourquoi vous étiez depuis longtemps abominables aux gens sobres, qui voyaient que vous ne feriez aucun bien. Mais c'était une joie pour l'un quelconque d'entre vous de monter en autorité, afin d'avoir louange, honneur et respect, et ce qui était dans le renoncement à soi-même était pour vous une dérision, parmi lesquelles la recherche de l'honneur des hommes était bannie. Ainsi vous êtes devenus les maîtres de la nation, et non ses serviteurs, alors que le plus grand de tous devrait être le serviteur de tous. Mais c'est là que vous avez perdu votre autorité, ne considérant pas votre condition, d'où vous veniez, et dans quel but Dieu vous avait élevé, mais vous avez oublié le Seigneur, et éteint ce qui était bon en vous-même, et persécuté ce qui vivait dans le bien. Et ainsi vous êtes devenu si grossier et perverti qu'à la fin vous n'êtes propre ni pour Dieu ni pour l'homme. N'aviez-vous pas coutume d'appeler les Quakers le peuple fanatique, et le peuple à la tête folle? Mais où êtes-vous maintenant chancelé, dans la ville de Carin, Nod, qui signifie fugitif ou errant? N'avez-vous pas persécuté et emprisonné jusqu'à la mort ce que Dieu avait regardé favorablement? Et Dieu ne vous reprend-il pas maintenant, à cause d'eux, par cela même que vous avez haïs? Beaucoup parmi vous n'ont-ils pas été retranchés à cause de votre persécution? Et pourtant le reste d'entre vous n'a pas voulu prendre avertissement? N'y a-t-il pas eu un livre d'exemple publié pour vous, sur les morts soudaines et étranges survenues aux persécuteurs des innocents? Et pourtant vous n'avez pas voulu prendre avertissement, jusqu'à ce que le fléau débordant vienne maintenant sur vous. N'êtes-vous pas semblable à ceux qui tuèrent comme Caïn, qui ont tué près de votre sacrifice et y ont mêlé le sang des innocents? Dieu ne vous a-t-il pas maintenant rendu vagabond, pour que vous deveniez une malédiction sur la terre, vous qui avez persécuté les amis jusqu'à la mort? Le sang des justes ne criait-il pas du sol pour vengeance, et le sang des justes ne sera-t-il pas redemandé? Pouviez-vous penser que le Seigneur vous laisserait toujours siéger les mains ensanglantées et les poings d'iniquité? Qu'est devenu tout votre festoiement et vos jeûnes, les prières et les bénédictions de vos prêtres? George Fox étant maintenant dégagé de la ville, et sentant mon esprit attiré à visiter les amis dans les parties occidentales de l'Angleterre, je sortis de la ville, et passant d'abord dans le Surrey et le Sussex, j'arrivai dans une grande ville, où il y avait une grande réunion, à laquelle plusieurs amis de Reading vinrent, et ce fut une réunion bénie. Le prêtre de la ville était dans une grande rage, mais ne sortit pas de sa maison. Ainsi, l'entendant faire grand bruit dans sa maison, comme nous quittions la réunion, nous lui demandâmes de sortir dans la rue afin de pouvoir débattre avec lui, mais il ne le voulut pas. Ainsi la puissance du Seigneur fut sur tout, et les amis furent rafraîchis en elle. De là je me rendis dans une autre ville de marché, où le soir nous eûmes une précieuse réunion, et le sentiment frais de la présence du Seigneur Dieu fut doucement ressenti parmi nous. Puis, entrant dans le Hampshire et le Dorsetshire, j'allai à Ringwood et à Poole, visitant les amis dans la puissance du Seigneur, et j'eus parmi eux de grandes réunions. À Dorchester, nous eûmes une grande réunion le soir dans notre auberge, à laquelle vinrent beaucoup de soldats assez civils. Mais les constables et officiers de la ville vinrent, sous prétexte de chercher un jésuite, dont la tête, disait-il, était rasée, et ils nous dirent à tous d'ôter nos chapeaux, sinon ils les ôteraient eux-mêmes, pour chercher la tête rasée du jésuite. Ils ôtèrent donc mon chapeau, car c'était moi qu'ils visaient, et ils examinèrent de très près, mais puisqu'ils ne purent trouver aucun endroit chauve ou rasé sur ma tête, ils s'en allèrent honteux, les soldats et les autres gens sobres en furent fort offensés. Mais cela servit bien le Seigneur, et toutes choses concoururent au bien, car cela toucha les gens, et après le départ des officiers, nous eûmes une belle réunion, et les gens furent tournés vers le Seigneur Jésus-Christ, leur enseignant, qui les avait achetés et les réconcilierait avec Dieu. De là, nous passâmes dans le Somersetshire, où les presbytériens et d'autres professants étaient très méchants et troublaient souvent les réunions des amis. Une fois en particulier, comme on nous en informa alors, un homme très pervers mit une peau d'ours sur son dos et entreprit avec cela de faire des grimaces dans la réunion. En conséquence, il se plaça en face de l'ami qui parlait, tira la langue hors de sa bouche et s'en amusa avec ses méchants partisans, causant un grand trouble dans la réunion. Mais un jugement remarquable le surprit, et son châtiment ne sommeilla pas, car comme il s'en allait de la réunion, il y avait sur le chemin un appâtage de taureaux qu'il s'arrêta à regarder, et s'étant approché à portée du taureau, celui-ci lui enfonça sa corne sous le menton juste dans la gorge, et lui fit sortir la langue de la bouche, de sorte qu'elle pendait, comme il l'avait fait auparavant par dérision dans la réunion. Et la corne du taureau montant jusqu'à la tête de l'homme, le taureau le fit tournoyer sur sa corne de la manière la plus remarquable et terrible. Ainsi celui qui était venu pour nuire au peuple de Dieu fut lui-même blessé, et il serait bon que de tels exemples manifestes de vengeance divine apprennent aux autres à se garder de s'opposer à la vérité de Dieu. Nous voyageâmes à travers le Somersetshire et le Devonshire, jusqu'à ce que nous arrivions à Plymouth, puis en Cornouailles, visitant les réunions des amis, jusqu'au Land's End. Nous eûmes tout le long de la route de nombreuses réunions précieuses et bénies, dans lesquelles les convaincus furent affermis, et beaucoup d'autres s'y ajoutèrent. Au Land's End, un honnête pêcheur fut convaincu, qui devint un fidèle ministre du Christ. Je le fis remarquer aux amis, leur disant, « Il est comme Pierre. Pendant que j'étais en Cornouailles, il y eut un grand naufrage au Land's End. » Dans ce pays, à cette époque, il était d'usage, tant pour les riches que pour les pauvres, d'aller récupérer autant que possible de l'épave sans se soucier de sauver la vie des gens, et dans certaines parties du pays, on appelait les naufrages la grâce de Dieu. Mon esprit fut affligé d'entendre parler de telles actions non chrétiennes, considérant combien elles étaient au-dessous des païens de Malte, qui reçurent Paul, lui firent un feu, et furent courtois envers lui et ceux qui avaient souffert le naufrage avec lui. Sur cette base, je fus poussé à écrire un document et à l'envoyer à toutes les paroisses, prêtres et magistrats, pour les reprendre de telles actions cupides, et les avertir et les exhorter à ce que, s'ils pouvaient aider à sauver la vie des gens et préserver leur navire et leurs biens, ils fassent leur meilleur effort. Et qu'ils considèrent que s'ils étaient victimes d'un naufrage, ils seraient très indignés de voir quelqu'un arriver sur une épave, et que les gens s'efforcent de prendre ce qu'ils pourraient d'eux sans se soucier de leur vie. Amis et gens, prenez garde à l'avidité et à la convoitise, car c'est de l'idolâtrie, et l'idolâtre ne doit pas entrer dans le royaume de Dieu. Prenez garde à l'ivrognerie, aux serments et aux malédictions, car ce sont des destructeurs de la création, et ils la font gémir. Rejetez toute lutte, crêle, rixe et médisance, qui sont les œuvres de la chair et non de l'esprit, car ceux qui suivent de telles choses ne sont guère susceptibles d'hériter du royaume de Dieu. Écartez toute parole corrompue, qui sont insipides, ainsi que le fait d'injurier les gens, car vous devrez rendre compte de toute parole oiseuse. Rejetez toute profession et toute religion qui sont vaines, et venez à la possession, la religion pure, qui consiste à visiter l'orphelin, la veuve et l'étranger, et à les accueillir. Car certains par ce moyen peuvent sans le savoir héberger des anges ou les serviteurs du Seigneur, comme Paul fut hébergé après le naufrage à Malte. Ne prenez pas de force les biens des gens dans leur navire, qu'ils soient marins ou autres, et ne les convoitez pas, mais efforcez-vous plutôt de préserver leur vie et leurs biens, car cela montre un esprit de compassion et l'esprit d'un chrétien. Mais si vous êtes avide et convoitez les biens d'autrui, sans vous soucier de ce qu'il advient des hommes, voudriez-vous que les autres vous fassent cela? Si vous faisiez naufrage ailleurs, et que les gens viennent mettre en pièces les biens et le navire, sans se soucier de sauver vos vies, mais prêts à se battre les uns contre les autres pour vos biens, ne croyez-vous pas que de tels biens deviendraient pour eux une malédiction? Ne pouvez-vous pas croire tout aussi sûrement que de telles actions deviendront une malédiction pour vous, quand le butin des biens d'un navire est follement dépensé et consumé dans les convoitises, dans les débits de bière, les tavernes et ailleurs, alors vous en cherchez un autre. Est-ce là faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse, ce qui est la loi et les prophètes? Prêtre Rull, sont-ce là vos fruits? Pourquoi prenez-vous le travail et les biens des gens? N'avez-vous pas enseigné au peuple de meilleures manières et une meilleure conduite, à lui qui est si brutal et si païen? Nous jugeons de telles choses en quiconque les fait. Mais si quelque ami ou d'autres s'efforce de préserver la vie des hommes, et de sauver leurs biens et leurs fortunes, et de restituer aux propriétaires ce qu'ils peuvent sauver d'un naufrage, si les propriétaires les payent pour leur travail, faisant en ce cas pour eux ce qu'ils voudraient qu'on fît pour eux-mêmes, cela nous l'approuvons. Et s'ils achètent ou vendent, et ne font pas d'une proie ce qui est permis, dans la voie de faire comme vous voudriez qu'on vous fît, s'en tenant à la loi et aux prophètes. Si vous faisiez naufrage dans un autre pays, vous espéreriez que d'autres sauveraient vos vies et vos biens, et que vos biens vous seraient rendus, et vous devriez les payer pour cela. Tous ceux qui font autrement, qui guettent un naufrage et prennent les biens pour eux-mêmes, sans se soucier de la vie des hommes, et si quelqu'un échappe à la noyade, le contraignent à mendier de ci de là dans le pays, et si quelqu'un s'en sort avec un peu, le dépouille. Tous ceux qui agissent ainsi ne sont pas pour préserver la création, mais pour la détruire, et ces biens ainsi obtenus seront pour eux une malédiction, une plaie et un jugement, et les jugements de Dieu les suivront pour avoir fait de telles choses, le témoin dans vos consciences y répondra. C'est pourquoi vous tous qui avez fait de telles choses, n'en faites plus, autrement il vous arrivera pire. Mais faites ce qui est bon, préservez la vie et les biens des hommes, et travaillez à réparer la perte et la brèche, c'est ce que le Seigneur requiert. Ne soyez pas comme une bande de chiens avides, et pire que des païens, comme si vous n'aviez jamais entendu parler de Dieu, ni du Christ, ni des Écritures, ni de la religion pure. Et prêtre Rull, des gens ont-ils dépensé leur argent pour vous pour ce qui n'est pas du pain, pour une chose qui ne vaut rien, quand vous portez de tels fruits? Tous ces enseignants qui font commerce des Écritures, qui sont donnés par l'Esprit de Dieu pour être crus, l'us et mis en pratique, et pour que le Christ dont elles rendent témoignage soit goûté, nous les rejetons entièrement, nous, qui reconnaissons le Christ et nous sommes détachés de vos maisons à clocher, qui étaient les anciennes maisons de messe, car ces mauvais fruits y sont abrités, ce sont leurs cages. Mais venez à l'Église qui est en Dieu, 1 Thessaloniciens 1, et venez tous à la lumière dont le Christ Jésus vous a éclairé, laquelle vous montre toutes vos paroles impies, vos pensées impies et vos actions impies. Elle sera votre maître si vous l'aimez, votre condamneur si vous la haïssez. Car le jour puissant du Seigneur vient sur toute méchanceté et toute impiété, rejetez donc vos prostitutions et vos fornications. Et vous, magistrats, qui devez rendre justice, ne pensez-vous pas que la main du Seigneur Dieu est contre vous, et que ses jugements viendront sur vous qui ne veillez pas à ces choses et ne les arrêtez pas par la loi, qui est « faire à tous les hommes ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse, afin que vous puissiez être une bonne odeur dans votre pays ». La loi n'est-elle pas de préserver la vie et les biens des hommes, faisant à tous les hommes ce que les hommes voudraient qu'on leur fît? Car tous les hommes voudraient que leur vie et leurs biens soient préservés, ne devez-vous donc pas préserver ceux des autres, et ne pas permettre qu'ils soient dévorés et détruits? Le mal de ces choses retombera sur vous, prêtres et magistrats. George Fox Postscriptum, tous les chers amis qui craignent le Seigneur Dieu, tenez-vous à l'écart de l'esprit rapace du monde, qui mène à dévorer et à détruire, et qui est étranger à la sagesse de Dieu. Quand des navires font naufrage, ne courez pas, avec le monde, détruire et saccager le navire et les biens, mais courez sauver les hommes et les biens pour eux, renoncez ainsi à vous-même, et faites pour eux ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. George Fox, ce texte a rendu de bons services parmi les gens, et les amis se sont beaucoup efforcés de sauver la vie des hommes lors des naufrages, et de préserver pour eux les navires et les biens. Et lorsque certains, qui avaient subi un naufrage, étaient presque morts et affamés, les amis les ont emmenés chez eux pour les assister et les remettre sur pied, ce qui est un acte que tous les vrais chrétiens devraient pratiquer. J'eus beaucoup de réunions précieuses bénies vivant en Cornouailles. Plusieurs personnes éminentes furent convaincues dans ce comté que ni les prêtres ni les magistrats, par la saisie de leurs biens ou par des emprisonnements, ne purent amener à abandonner leur berger, le Seigneur Jésus-Christ, qui les avait rachetés, et les amis qui s'étaient tournés vers le Christ, leur maître et sauveur, étant établis en paix et en tranquillité sur lui, leur fondement, nous les laissâmes à l'enseignement et à l'ordre du Seigneur, frais et verdoyants. Thomas Lowe, qui m'avait accompagné dans ce comté, me fit repasser Horsebridge jusque dans le Devonshire, et après plusieurs réunions dans le Devonshire, nous vînmes dans le Somersetshire, où nous eûmes plusieurs grandes réunions paisibles, et visitâmes les amis jusqu'à notre arrivée à Bristol. J'entrai à Bristol un septième jour. La veille, les soldats étaient venus à la réunion et avaient été extrêmement grossiers, frappant et battant les amis avec leurs mousquets, et les chassant du verger dans une grande rage, menaçant de ce qu'ils feraient s'ils y revenaient. Car il semble que le maire et le commandant des soldats s'étaient ligués pour susciter du trouble parmi nous. Quand les amis me dirent quelle rage régnait dans la ville, comment le maire et les soldats les avaient menacés, et combien ils avaient été indisciplinés la veille, j'envoyai chercher George Bishop, Thomas Gouldney, Thomas Speed et Edward Pio, et je leur demandai d'aller voir le maire et les échevins, et puisqu'ils avaient fait cesser nos réunions, de leur demander de nous laisser la salle de l'hôtel de ville pour nous y réunir. Je proposai que, pour l'usage de cette salle, nous leur donnerions 20 livres par an, à distribuer aux pauvres, et que, lorsque le maire et les échevins auraient des affaires à y traiter, les amis ne s'y réuniraient pas, mais seulement les premiers jours. Ses amis furent stupéfaits et dirent que le maire et les échevins les prendraient pour des fous. Je dis non, car il leur offrirait un avantage considérable pour les pauvres, et il m'était donné du Seigneur de leur dire d'y aller. Finalement ils consentirent et partirent, bien que cela fût à l'encontre de leur volonté propre. Lorsqu'ils eurent exposé la chose au maire, cela le saisit si fortement qu'il dit « Pour ma part, je puis y consentir, mais je ne suis qu'un seul. » Il leur parla d'une autre grande salle qu'ils pourraient avoir, mais ils ne l'acceptèrent pas parce qu'elle était incommode. Ils s'en allèrent donc, laissant le maire dans une disposition très affectueuse envers eux, car ils sentaient que la puissance du Seigneur l'avait saisi. Quand ils revinrent, je leur dis d'aller voir le colonel et de lui exposer la conduite grossière de ses soldats, comment ils étaient venus armés parmi des gens innocents et sans armes, qui attendaient et adoraient le Seigneur, mais ils hésitaient à aller vers lui. Le lendemain matin, étant le premier jour, nous allâmes à la réunion dans le verger, où les soldats avaient été si grossiers si récemment. Après que j'eus déclaré la vérité assez longtemps dans la réunion, beaucoup de soldats et de gens grossiers arrivèrent, certains avec l'épée dégainée. Les aubergistes en avaient fait boire certains, et l'un d'eux s'était engagé par serment à abattre et tuer l'homme qui parlait. Il se fraya un passage à travers la foule jusqu'à 2 mètres de moi, et s'arrêta devant ses 4 amis déjà mentionnés, qui auraient dû aller au colonel comme je le voulais, et se mit à discuter avec eux. Soudain je vis que son épée était rengainée et avait disparu, car la puissance du Seigneur vint sur tous et l'enchaîna, lui et les autres. Nous eûmes une réunion bénie, car la puissance éternelle et la présence du Seigneur furent ressenties parmi nous. Le jour suivant, ses 4 amis allèrent parler au colonel, et il fit venir les soldats, puis il se mit à taillader et à lacérer certains d'entre eux juste sous les yeux des amis. Quand j'appris cela, je les blâmai de l'avoir laissé faire, et aussi de ne pas y être allé le 7e jour comme je le leur avais dit, ce qui aurait pu empêcher cette taille infligée aux soldats et les troubles qu'ils causèrent à notre réunion. Ainsi la puissance du Seigneur vint sur tous ces esprits persécuteurs et sanguinaires, et la réunion se tint en paix pendant un bon moment après cela. J'eus aussi une assemblée générale chez Edward Pio, près de Bristol, à laquelle on estima qu'il y avait plusieurs milliers de personnes, car, outre les amis venus de nombreuses parties de la région, certains des baptistes et des indépendants avec leurs enseignants y vinrent, ainsi que beaucoup de gens sérieux de Bristol. Tant de monde vint à la réunion que ceux qui restèrent en ville dirent « la cité semblait nue ». Ce fut très paisible, de nombreuses vérités glorieuses furent ouvertes au peuple, et le Seigneur Jésus-Christ fut élevé, lui qui est la fin de toutes les figures et ombre de la loi et de la première alliance. Il fut déclaré au peuple que toutes les figures et ombres furent données à l'homme après sa chute, et que tous les rudiments et inventions des hommes qui ont été établis dans la chrétienté, dont beaucoup étaient juifs et païens, n'ont pas été établis par le commandement du Christ, et toutes les images et ressemblances que l'homme s'est fait, pour lui-même ou à lui-même, qu'elles soient des choses du ciel ou des choses de la terre, datent du moment où il a perdu l'image et la ressemblance de Dieu, dans laquelle Dieu l'avait créé. Mais maintenant le Christ est venu pour racheter, transporter, convertir et régénérer l'homme hors de toutes ces choses qu'il a dressées dans la chute, hors des types, figures et ombres, et aussi hors de la mort et des ténèbres, pour le ramener dans la lumière, la vie et l'image de Dieu, comme l'homme et la femme étaient avant de tomber. Ainsi tous doivent maintenant venir, et tous peuvent venir recevoir Christ Jésus, la réalité, par sa lumière, son esprit, sa grâce et la foi, et doivent vivre et marcher en lui, le Rédempteur et Sauveur. Et comme nous avions beaucoup à faire avec les prêtres et les religieux de profession, qui plaidaient pour l'imperfection, je fus amené à leur déclarer et manifester qu'Adam et Ève étaient parfaits avant de tomber, et tout ce que Dieu avait fait, il vit que c'était bon, et il le bénit, mais l'imperfection entra par la chute, par l'écoute que l'homme et la femme prêtèrent au diable, qui était hors de la vérité. Et bien que la loi n'ait rien rendu parfait, elle a pourtant frayé la voie à l'introduction d'une meilleure espérance, laquelle espérance est le Christ, qui détruit le diable et ses œuvres, qui avait rendu l'homme et la femme imparfaits. Le Christ dit à ses disciples, Soyez parfait, comme votre Père céleste est parfait, et lui, qui était lui-même parfait, vient rendre l'homme et la femme parfaits de nouveau, et les ramène à l'état dans lequel Dieu les avait créés. Ainsi il est celui qui répare la brèche et la paix entre Dieu et l'homme. Afin que cela fût mieux compris des simples, j'employai une comparaison, celle de deux vieillards dont la maison avait été démolie par un ennemi, de sorte que, eux et tous leurs enfants, étaient exposés à toutes les tempêtes et les orages. Et certains vinrent à eux, prétendant d'être des ouvriers, et offrirent de rebâtir la maison des vieillards, s'ils leur donnaient tant par an, mais lorsqu'ils eurent obtenu leur argent, ils laissèrent la maison comme ils l'avaient trouvée. Ensuite vinrent un second, un troisième, un quatrième, un cinquième et un sixième, chacun avec son prétexte particulier pour rebâtir la vieille maison, et chacun prit l'argent du peuple, puis cria, « Il ne pouvait pas relever la maison, la brèche ne pouvait pas être réparée, car il n'y a pas de perfection ici. » Ils leur disent que la maison ne pourra jamais être parfaitement rebâtie en cette vie, bien qu'ils aient pris l'argent du peuple pour le faire. Car tous les maîtres de secte de la chrétienté, comme on les appelle, ont prétendu rebâtir la maison déchue d'Adam et Ève, et quand ils ont obtenu l'argent du peuple, ils leur disent que l'ouvrage ne peut être fait parfaitement ici, ainsi leur maison reste comme elle était. Mais je dis au peuple que le Christ était venu le faire gratuitement, lui qui par une seule offrande a rendu parfait pour toujours tous ceux qui sont sanctifiés, et il les renouvelle à l'image de Dieu, dans laquelle l'homme et la femme étaient avant leur chute, et rend la maison de l'homme et de la femme aussi parfaite de nouveau que Dieu les avait fait au commencement. Et ce Christ, l'homme céleste, fait tout cela gratuitement sans frais. Ainsi tous doivent le regarder, et tous ceux qui l'ont reçu doivent marcher en lui, la vie, la réalité, le premier et le dernier, le rocher des siècles, le fondement de nombreuses générations. Et ces choses et bien d'autres furent largement ouvertes au peuple, la parole de vie fut prêchée, qui vit et demeure, et tous furent exhortés à l'entendre et à lui obéir, afin que par elle tous puissent naître de nouveau de la semence immortelle et se nourrir du lait de la parole. Ce fut une réunion glorieuse, où la semence éternelle du Seigneur, Christ Jésus, fut établie au-dessus de tout, et les amis se séparèrent dans la puissance et l'Esprit du Seigneur, en paix et dans sa vérité, qui est au-dessus de tout. Vers ce temps, les soldats sous le commandement du général Monk étaient grossiers et importuns dans les réunions des amis en de nombreux lieux. Pour cette raison, une plainte lui fut adressée, et il publia l'ordre suivant, qui les refréna quelque peu, Saint James's, le 9 mars 1659. J'exige de tous les officiers et soldats qu'ils s'abstiennent de troubler les réunions paisibles des Quakers, car ils ne font rien de préjudiciable au Parlement ni au Commonwealth d'Angleterre. George Monk, après cette réunion, je passai à Aldeston à Nailsworth, puis chez Nathaniel Cripp, où il y eut une grande réunion et plusieurs soldats étaient là, mais ce fut paisible. De là, nous allâmes à Gloucester en visitant des réunions. À Gloucester, nous eûmes une réunion paisible, bien que la ville fût très grossière et divisée, car une partie des soldats était pour le roi et une autre pour le Parlement. Lorsque je sortis de la ville en passant le pont, Edward Pio étant avec moi, les soldats qui s'y trouvaient dirent qu'ils étaient pour le roi. Après que nous les eûmes dépassés et qu'ils comprirent que c'était moi, ils furent dans une grande rage de m'avoir laissé leur échapper, et dirent, s'ils avaient su que c'était moi, ils m'auraient tiré dessus avec de la grenaille plutôt que de me laisser m'échapper. Mais le Seigneur empêcha leur dessein diabolique et me conduisit sain et sauf chez le colonel Grimm, où nous eûmes une grande assemblée générale, et la vérité et la puissance du Seigneur furent établies au-dessus de tout, les amis furent affermis sur le rocher et établis sous l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. De là, nous passâmes à Tewkesbury, puis à Worcester, en visitant des réunions en chemin. Et durant tout le temps que je passais dans ces villes, je n'avais jamais vu une telle ivrognerie, car on y avait procédé à l'élection de membres du Parlement. À Worcester, la vérité du Seigneur fut établie au-dessus de tout, les gens y furent bien affermis, et les amis louèrent le Seigneur, oui, je vis la terre même se réjouir. Pourtant beaucoup avaient de grandes craintes et étaient très troublés, s'attendant à l'entrée du roi et croyant que tout allait changer. Ils me demandaient ce que je pensais des temps et des choses. Je leur dis que la puissance du Seigneur était au-dessus de tout, que sa lumière brillait au-dessus de tout, et que la crainte ne saisirait que les hypocrites, ceux qui n'avaient pas été fidèles à Dieu, et nos persécuteurs. Car dans mon labeur et mes souffrances à Reading, quand les gens étaient dans l'incertitude et ne pouvaient dire qui gouvernerait, je leur disais que la puissance du Seigneur était au-dessus de tout, car j'avais voyagé en elle, et que son jour brillait sur quiconque entrerait, et que le roi revint ou non, tout irait bien pour ceux qui aimaient le Seigneur et lui étaient fidèles. C'est pourquoi je dis à tous les amis de ne craindre personne sinon le Seigneur, et de demeurer dans sa puissance, qui est au-dessus de tout. Extrait de Valiant for the Truth, les factions rivales en Angleterre se trouvaient alors dans un état de grand tumulte, et les royalistes étaient avides de saisir l'occasion de rétablir Charles Stuart sur le trône de son père. Le général Monk, un homme dont les principes étaient de cette espèce commode qui se modifie aisément, commandait l'armée en Écosse et était craint et courtisé par tous les partis. Il avait été royaliste avant d'être parlementaire et ne trouva aucune difficulté à employer désormais son pouvoir à réaliser la restauration du roi. Il envoya des lettres à Charles, qui était à Cologne, guettant une occasion de faire valoir ses prétentions au trône, et le résultat de leur correspondance fut la célèbre déclaration de Breda, que Charles envoya à la Chambre des Lords, avec un double à la Chambre des Communes. Ce document, daté du 14 avril 1660, était plein de belles promesses, et un paragraphe intéressa particulièrement les amis, dont 144 étaient alors en prison pour motif de conscience. Parce que la passion et le manque de charité de ces temps ont produit des opinions différentes en matière de religion, par lesquelles les hommes s'engagent en partie et en inimitié les uns contre les autres, lesquelles, lorsqu'ils se réuniront par la suite dans la liberté des relations, seront mieux comprises, nous déclarons une liberté pour les consciences délicates, et qu'aucun homme ne sera inquiété ni mis en cause pour divergence d'opinion en matière de religion, pourvu que cela ne trouble pas la paix du royaume, et nous serons prêts. Le parti royaliste dominant à la Chambre des Lords, on décida bientôt d'inviter Charles à monter sur le trône de son père. Le jeune homme appareilla donc de la Haye et débarqua à Douvres, le 25 du 5e mois 1660, avec ses deux frères James, duc d'York, et Henry, duc de Gloucester. De là, il se rendit à Londres, accueilli de toutes parts par les joyeuses acclamations de ses sujets. Des hommes et des femmes sérieux s'agenouillèrent et demandèrent des bénédictions sur lui, levant leurs petits-enfants pour qu'ils le voient, afin qu'ils puissent raconter à leurs enfants et petits-enfants ce jour glorieux. La cité de Londres fut remuée jusqu'en ses profondeurs à son arrivée. Les cloches déversèrent leurs joyeuses salutations, des feux de joie furent allumés, et des foules vêtues d'habits de fête envahirent les rues. L'ancienne sobriété puritaine fut soigneusement évitée, les garde-robes des cavaliers furent ressortis, les gentilshommes et les dames françaises de la cour apparurent en couleurs vives, et tout ressemblait à un jour de gala lorsque le roi revint à son profit. Au milieu de toute cette agitation, les amis poursuivirent le cours égal de leur chemin, bien qu'ils se réjouissent que la restauration se fût accomplie paisiblement et nourrissent l'espoir d'un certain répit face à la persécution. Richard Robuthon, écrivant à ses amis de Swarthmore, le 29 du 5e mois 16130, dit « Aujourd'hui le roi Charles et ses deux frères James et Henry sont entrés dans la cité. Charles a une physionomie assez sobre, mais la grande fierté et la vanité de ceux qui l'ont fait entrer sont indescriptibles. Il est en danger d'être entraîné dans des choses auxquelles lui-même n'est pas porté. De Worcester, je visitais les réunions des amis jusqu'à mon arrivée à Badley. De là j'allais à Dreton, dans le Leicestershire, rendre visite à mes proches. Pendant que j'y étais, un juge de paix nommé Burton, ayant entendu dire que j'avais un bon cheval, envoya un mandat pour me chercher, moi et mon cheval, mais j'étais parti avant qu'il n'arrive, et ainsi il manqua son dessein mauvais. Je passai par Twycross, Swannington et Derby, où je visitai les amis, et trouvai parmi eux mon ancien geôlier, qui m'avait autrefois gardé dans la maison de correction de cet endroit, et qui était maintenant convaincu de la vérité pour laquelle j'avais souffert sous lui alors. Passant dans le Derbyshire et le Nottinghamshire, j'arrivai à Cinderhill Green, en visitant les réunions des amis, puis à Balby dans le Yorkshire, où notre réunion annuelle de ce temps-là se tint dans un grand verger de John Killam, où l'on estima que des milliers de personnes et d'amis étaient rassemblés. Le matin, j'appris qu'une troupe de cavalerie avait été envoyée de York, à environ 30 000, pour dissoudre notre réunion, et que la milice nouvellement levée devait s'y joindre. J'entrai dans la réunion et me tins debout sur un grand tabouret, et après que j'eus parlé quelque temps, deux trompettes arrivèrent en sonnant assez près de moi, et le capitaine de la troupe cria « Divisez à droite et à gauche et faites place ». Alors ils s'avancèrent à cheval jusqu'à moi. Je proclamai la vérité éternelle et la parole de vie dans la puissance puissante du Seigneur. Le capitaine me dit « Descends, car je suis venu disperser votre réunion ». Au bout d'un moment, je lui dis qu'il savait tous que nous étions un peuple paisible et que nous avions l'habitude d'avoir de si grandes réunions. Mais s'il pensait que nous nous réunissions de manière hostile, je lui demandais de nous fouiller et s'il trouvait une épée ou un pistolet sur quiconque que celui-là subisse. Il me répondit « Il faut que je vous voie disperser, car je suis venu toute la nuit exprès pour vous disperser ». Je lui demandai « Quel honneur ce serait pour lui de chevaucher avec épée et pistolets au milieu de tant d'hommes et de femmes sans armes ». Mais s'il voulait rester tranquille et calme, notre réunion ne durait probablement pas plus de 2 ou 3 heures, et lorsqu'elle serait terminée, comme nous nous étions réunis paisiblement, nous nous séparerions paisiblement, car ils pouvaient percevoir que la réunion était si grande que tout le pays d'alentour ne pouvait les loger, et qu'ils avaient l'intention de repartir vers leur foyer la nuit. Il dit qu'il ne pouvait pas rester pour voir la fin de la réunion, mais devait les disperser avant de partir. Je lui demandai alors s'il ne pouvait pas rester lui-même, qu'il laisse une douzaine de ses soldats rester, et voir l'ordre et la paix de notre réunion. Il dit qu'il nous accorderait une heure, et laissa une demi-douzaine de soldats avec nous. Puis il s'en alla avec sa troupe, et les amis de la maison donnèrent aux soldats restés là quelque nourriture pour eux et leurs chevaux. Quand le capitaine fut parti, les soldats laissés sur place nous dirent « Vous pouvez rester jusqu'à la nuit si vous voulez ». Mais nous ne restâmes qu'environ 3 heures de plus, et nous eûmes une réunion glorieuse et puissante, car la présence du Dieu vivant se manifesta parmi nous, et la semence, le Christ, était au-dessus de tout. Les amis furent édifiés sur lui, le fondement, et établis sous son enseignement glorieux et céleste. Après la réunion, les amis s'en allèrent en paix, grandement rafraîchis par la présence du Seigneur, et remplis de joie et d'allégresse, parce que la puissance du Seigneur leur avait donné une telle domination. Beaucoup des soldats de la milice restèrent aussi, très contrariés que le capitaine et les cavaliers n'aient pas dissous notre réunion, et ils maudirent le capitaine et ses cavaliers. On rapporta qu'ils avaient l'intention de nous faire du mal ce jour-là, mais les cavaliers, au lieu de les aider, nous aidèrent plutôt, en ne se joignant pas à eux comme ils l'espéraient, et en les empêchant de commettre le méfait qu'ils projetaient. Pourtant, ce capitaine était un homme désespéré, car c'était le même capitaine qui m'avait dit en Écosse qu'il obéirait aux ordres de son supérieur, que si c'était de crucifier le Christ, il le ferait, ou d'exécuter l'ordre du grand Turc contre les chrétiens s'il était sous ses ordres. Ainsi c'était une puissance éminente du Seigneur qui le maintint enchaîné, lui et ses cavaliers, et aussi ses soldats envieux de la milice, qui s'en allèrent, sans avoir le pouvoir de nuire à aucun de nous, ni de dissoudre notre réunion. Et l'un des cavaliers dit ici que plus de gens suivent George Fox qu'il n'y en a autour de la cour de Monseigneur Protecteur. Le lendemain, nous eûmes une réunion céleste à Wormsworth, d'amis dans le ministère et de plusieurs autres, puis les amis se séparèrent. En traversant le pays, plusieurs furent arrêtés, car le jour où notre première réunion s'était tenue, Lambert fut mis en déroute, ce qui causa une grande confusion dans le pays, mais les amis ne furent pas gardés longtemps en prison à ce moment-là. Comme je me rendais à cette réunion, plusieurs vinrent à moi à Skegby, dans le Nottinghamshire. Ils allaient se faire soldats sous Lambert et auraient voulu m'acheter mon cheval, et parce que je ne voulais pas le vendre, ils furent dans une grande rage contre moi, proférant beaucoup de menaces. Mais je leur dis, Dieu les confondra et les dispersera, et dans les 2 ou 3 jours qui suivirent, ils furent en effet dispersés. De Wormsworth, je passai dans la puissance du Seigneur à Barton Abbey, où j'eus une grande réunion. De là, j'allai chez Thomas Taylor, puis à Skipton, où se tint une assemblée générale d'amis, hommes venus de nombreux comtés au sujet des affaires de l'Église. Un ami traversa la ville nu en proclamant la vérité, et il fut violemment battu. D'autres amis encore vinrent à moi, tout ensanglantés. Comme je marchais dans la rue, un homme désespéré avait l'intention de me faire du mal, mais il en fut empêché, et notre réunion fut paisible. À cette réunion vinrent de nombreux amis de la plupart des parties de la nation, car il s'agissait d'affaires concernant l'Église, tant dans cette nation qu'au-delà des mers. Plusieurs années auparavant, quand j'étais dans le Nord, j'avais été poussé à recommander aux amis d'établir cette réunion pour ce service, car beaucoup d'amis souffraient en divers endroits de la nation, leurs biens leur étaient pris contrairement à la loi, et ils ne comprenaient pas comment s'aider eux-mêmes, ni où chercher réparation. Mais après que cette réunion fut établie, plusieurs amis qui avaient été magistrats, et d'autres qui comprenaient quelque chose de la loi, vinrent là, et furent capables d'informer les amis, et de les aider à rassembler les souffrances, afin qu'elles puissent être présentées au juge de paix, au juge ou au parlement. Cette réunion subsistait depuis plusieurs années, et nombre de juges de paix et de capitaines étaient venus pour la dissoudre, mais lorsqu'ils comprenaient l'objet pour lequel les amis se réunissaient, et voyaient les livres et comptes des amis concernant les collectes pour le secours des pauvres, comment nous veillons à ce qu'un comté aide un autre, et à aider nos amis outre-mer, et à pourvoir à nos pauvres afin qu'aucun d'eux ne fût à la charge de leur paroisse, etc. Les juges de paix et les officiers reconnaissaient que nous faisions leur travail et s'en allaient paisiblement et affectueusement, loin la pratique des amis. Parfois, 200 pauvres d'autres personnes venaient aussi attendre que la réunion fût terminée, car tout le pays savait que nous nous réunissions au sujet des pauvres, et après la réunion, les amis envoyaient chercher du pain chez les boulangers et donnaient à chacun de ces pauvres une miche, quel que fût leur nombre, car on nous avait enseigné à faire du bien à tous, mais surtout aux membres de la famille de la foi. Retour suivant.